et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo, ce soir, du 25 au 28 juin, la ville de Saumur et ses alentours accueillent le festival Anaco, un événement culturel aux multiples facettes avec des films, des débats ou encore des expositions pour parler des peuples autochtones du monde entier. Pour en savoir plus sur l'événement, j'ai pu échanger en début de semaine avec Patrick Bernard, fondateur de l'association et du festival Anaco. En deuxième partie d'émission, on vous propose d'écouter le cinquième numéro de la série de reportages documentaires produite par la FRAP et la Core Lab, déjà demain, les territoires face au changement climatique. Dans cet épisode, on parle de la mémoire des catastrophes et de la perception des risques. Pour terminer cette émission, on accueille Anaïs en stage de seconde. Elle vient nous parler du projet de loi concernant l'interdiction des téléphones portables dans les lycées dès la rentrée prochaine. Voilà, vous savez tout pour ce pédalo du jeudi 25 juin. Alors ajustez vos gilets de sauvetage parce que le pédalo part à l'abordage.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Alors le 25 juin débute la 12e édition du festival Anaco du film ethnographique. Il se déroule à Saumur et ses alentours jusqu'au 28 juin. Après les préludes du festival du 31 mai au 23 juin, il est temps d'ouvrir cette nouvelle édition. Que vous soyez initiés aux peuples racines et leurs histoires ou simplement curieux, vous êtes tous les bienvenus. Au programme, des films, des débats, des expositions ou encore une grande soirée autour des Touaregs. Pour en parler, on reçoit Patrick Bernard, le fondateur du festival. Alors votre fondation créée en 2011 s'appelle Anaco. Il vient d'où ce nom et puis quel sens il a pour vous surtout ?
Bonjour. Oui, le mot Anaco, en fait, c'est le nom d'un vieux chaman d'un peuple, d'une tribu qui s'appelle les Orejon, que j'ai rencontré en 1978, ça date pas d'hier, en Amazonie péruvienne. Et ce vieux chaman, sa tribu, il ne restait plus que 12 personnes entre les mains d'une secte évangélique américaine. Et il a été abandonné par les siens et chassé de la tribu parce qu'il a refusé de se convertir au christianisme. Donc on l'a retrouvé abandonné tout seul en forêt, à chanter continuellement regardant la cime de la forêt. Il nous a beaucoup émus. Et quand en 2010, on a eu le projet de créer cette fondation pour faire un travail de mémoire autour des cultures des peuples premiers, eh ben on n'a pas cherché très loin le nom qu'on allait lui donner. Anaco est devenu une évidence.
Le terme peuple autochtone est parfois peu compris, surtout par les plus jeunes. Est-ce que les nommer peuple racine, parce que c'est ce qu'on constate beaucoup sur votre site internet, c'est pas plus lisible et fort de sens ?
Oui, bien sûr, c'est très bien de les nommer peuple racine ou peuple premier. Ce sont en général les descendants des Premières Nations de territoires qui ont été occupés, violés, colonisés par les invasions coloniales venues d'Europe pour certaines régions ou d'Arabie pour d'autres régions.
Et du coup, l'objectif, c'est de rendre votre festival plus accessible avec ce nom, parce que quand on parle de peuple autochtone, ça paraît assez fermé en tout cas. Mais si on change le nom, est-ce que ça le rend plus accessible ?
Oui, je pense que les gens sont très sensibles maintenant à ces peuples-là parce qu'on se rend compte que ce sont des peuples qui ont gardé une grande sagesse, une relation très forte à la nature. D'ailleurs, ils considèrent qu'ils appartiennent à la nature et non pas, contrairement à nous, que la nature nous appartient. Et je pense que l'avenir de nos sociétés occidentales ne pourra pas se passer d'une meilleure écoute des enseignements que ces peuples auront à nous transmettre. Donc c'est tout l'objectif du festival que de partager les modes de vie de ces peuples, leurs enseignements, leurs différences, parce que ce sont vraiment les derniers peuples sages et on est entré dans des décennies où les choses sont vraiment très bousculées en ce moment et beaucoup de ces modes de vie, même de ces peuples, disparaissent parfois carrément physiquement de la surface de la planète.
Chaque année, le festival il aborde un sujet selon un thème précis. Cette année, c'est « Vie nomade et peuple voyageur ». Pourquoi ce choix et surtout, pourquoi les termes « vie nomade » sont-ils au pluriel ?
Oui, ah bah parce qu'il y a beaucoup de vies nomades en fait. Oui, chaque année on a une thématique. Une année précédente c'était les sociétés matriarcales parce que 80% de ces peuples sont des sociétés matriarcales. Et la vie nomade, eh bah tout simplement parce que l'essentiel du festival se tient dans la ville médiévale de Montreuil-Bellay qui a hébergé dans les années de guerre de la Deuxième Guerre mondiale un camp d'internement de Tziganes. Et en fait, cette année, en 2026, le 80e anniversaire de la libération du dernier interné tzigane. Donc, on s'est dit, ben, on va marquer le coup, on va consacrer ce festival aux vies nomades au pluriel. Parce que des vies nomades, ben, il y en a beaucoup, hein. Il y a les tziganes, par exemple, d'Europe, qu'on appelle aussi les voyageurs. Chez nous, ce sont les Roms, les tziganes, les gitans, les manouches. Mais il y a aussi les chasseurs-cueilleurs itinérants. D'ailleurs, le festival leur consacrera beaucoup de temps. Les pygmées dans les forêts africaines. On ouvrira le festival le 25 juin à Loudun, avec le film Petit Peuple qui leur est consacré. Les Mlabris, qui sont les derniers chasseurs-cueilleurs d'Asie, les Bushmen, qui sont des chasseurs-cueilleurs du désert du Kalahari. On ira aussi chez les peuples d'éleveurs, les éleveurs nomades, c'est aussi une autre forme de vie nomade. Les peuples qui nomadisent à travers les steppes de Mongolie avec leurs troupeaux ou les steppes de Sibérie. Le samedi, par exemple, à 14h30, on aura un film de Jacques Ducoing consacré aux peuples du Grand Nord, donc en Sibérie, notamment les Dolganes. Et puis, il y a d'autres formes de. Vous avez les Touaregs, bien sûr, qui avaient de grandes carrières et qui traversaient le désert pour aller sur les marchés et faire du commerce. Et donc, la grande soirée du samedi soir leur sera consacrée avec un film, L'âme bleue du désert, et surtout le concert du groupe Tartite. C'est un groupe de femmes Touareg absolument extraordinaires qui sont des incontournables de la scène musicale touareg. Ça sera le samedi soir. Et puis, eh bien, vous avez aussi d'autres formes de nomadisme, le nomadisme contraint par l'exil ou les exodes successifs. Par exemple, samedi après-midi, je présenterai la première d'un de nos tout nouveaux films de notre équipe, l'équipe Anaco, qui s'appelle Triangle d'or, une famille Kayane. C'est une tribu, les Kayanes, d'agriculteurs des forêts de Birmanie. Vous savez, on les connaît parce que les femmes ont coutume de s'allonger le cou dans de longues spirales de laiton. On les appelle très vulgairement la tribu des femmes girafes, mais c'est un mot que je déteste employer. Et alors, eux ont dû fuir la Birmanie pour se retrouver dans des camps de réfugiés en Thaïlande. Ils ont dû fuir les camps de réfugiés pour se retrouver dans des villages zoos dans le nord où ils étaient exhibés au tourisme de masse. Et puis, avec l'aide de nos associations, une partie d'entre eux a pu s'exiler vers les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande parce qu'ils n'en pouvaient plus de se voir exhibés dans ces villages zoos. Donc, vous voyez, c'est toutes ces formes de nomadisme, de vie voyageuse qui vont être abordées dans le festival.
Alors, certains de ces films sont accompagnés d'un débat. Qu'est-ce que ça apporte de mettre un débat derrière?
Alors, il y a toujours le débat pour tous les films parce que tous les films sont présentés par leur réalisatrice ou leur réalisateur. Donc, eh bien, c'est ce qui est le plus passionnant dans des festivals comme ça, c'est que le public peut rencontrer les réalisatrices, les réalisateurs. On prévoit à la sortie, à la fin de chaque film, au moins 1 heure de débat. Donc, vous voyez, ça permet vraiment aux gens d'échanger. Et on aura des gens passionnants cette année. On aura Anne-Sophie Thiberguin, qui a nomadisé pendant 2 ans avec les Tziganes d'Europe de l'Est dans les années 80, mais elle a vécu aussi pendant 1 an dans une tribu amazonienne avec sa fille. Elle a eu des expériences extraordinaires. On aura Jean-Pierre Valentin, qui est un grand spécialiste des peuples du désert. On aura Jacques Ducoing, qui est un spécialiste des peuples du Grand Nord. On aura des représentants d'associations, Amnesty International, notre association à nous qui s'appelle ICRA International, qui est l'équivalent un peu d'Amnesty pour les peuples premiers. Donc, bah, un festival, c'est avant tout fait de rencontres et c'est ces rencontres qu'on organise et qu'on suscite à travers le festival. Puis on aura des musiciens, hein, on aura un groupe de jazz manouche qui vient de Loudun, qui s'appelle L'épine dans le swing, qui se produira le vendredi lors de la soirée en plein air, avec une projection en plein air. Et puis on aura ce groupe Touareg dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Alors justement, vous parlez de votre fondation, l'ONG ICRA International, donc qui consiste à défendre les droits des peuples autochtones. Donc c'est l'une de vos partenaires, cette association. Qu'est-ce que justement votre association va mettre en place tout au long de l'année pour défendre les droits des peuples autochtones en dehors du Festival Anaco, justement?
Alors, il y a deux choses. Il y a l'association ICRA International et la Fondation Anaco qui sont sur deux axes différents. L'association ICRA International, pour faire simple, c'est un peu l'équivalent d'Amnesty. Ce sont des campagnes de pression, de sensibilisation pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme. Notre association ICRA est également consultante aux Nations Unies, donc ça nous permet d'apporter les dossiers les plus urgents devant les instances des Nations Unies. Et puis, on gère également des programmes de terrain. On scolarise, par exemple, 600 enfants sur la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande, des enfants qui fuient les bombardements de la junte militaire birmane. On a un programme de dispensaires nomades à d'autres dromadaires, chez les Touaregs notamment. Il y a des programmes comme ça un peu partout à travers la planète, donc l'association et ses bénévoles accompagnent. Et la Fondation, elle, de son côté, fait tout un travail de mémoire. C'est-à-dire qu'on forme des communautés autochtones au langage audiovisuel, à l'enregistrement numérique, aux caméras numériques aujourd'hui, pour qu'ils puissent enregistrer la parole des anciens avant qu'elle ne s'éteigne à jamais, parce que ce sont des peuples de tradition orale, il n'y a pas d'écrit, et qu'ils puissent filmer leurs grands rituels avant qu'ils ne disparaissent ou qu'ils deviennent un vulgaire folklore que l'on sert en pâture aux touristes qui visitent en voyage organisé. Et notre statut de fondation nous permet également d'accueillir des legs. Donc on a aujourd'hui reçu énormément de films, d'enregistrements qui ont été réalisés par mes prédécesseurs, les pionniers de l'exploration ethnographique dans les années 50-60. Alors on a un conservatoire à Montreuil-Belay, on conserve ce fonds cinématographique dans ce conservatoire et on a un partenariat avec la région Grand Est qui assure la numérisation de tous ces films. Une fois qu'ils sont numérisés, on va les restituer aux communautés parce que c'est toute une partie de leur patrimoine qui est contenue dans ces films.
Alors la programmation nous montre qu'il y a 3 ou 4 films et expositions prévues par jour. Est-ce que le programme il a un sens précis comme une déambulation d'un film à un autre? Ou il y a une volonté que chaque film soit individuel et...
Alors, chaque film est individuel parce que ce sont des réalisatrices, des réalisateurs différents qui les ont faits. Mais il y a quand même une déambulation, effectivement. On commence par les chasseurs-cueilleurs, par exemple à Loudun avec le film sur les pygmées le jeudi. Le vendredi, on continue à Montreuil-Belay avec un film sur les Mlabris, à la salle de la Closerie. Les Mlabris, c'est les derniers chasseurs-cueilleurs qui vivent à la frontière de la Thaïlande et du Laos, dans les forêts. On poursuit avec les Bushmen. Donc, vous voyez, on change de région. On est en Afrique cette fois, mais c'est les plus anciens habitants de l'Afrique. Et puis, toute la soirée en plein air du vendredi, ça va être une exposition d'Anne-Sophie Thiberguin, une exposition d'habitat nomade, tipis, yourtes mongoles, tentes berbères, rouleurs tziganes, et donc le concert dont je vous ai parlé, de jazz manouche, et à 22h, une projection en plein air, Tzigane mon ami, avec Anne-Sophie Thiberguin. Et le samedi, eh bien, on va aborder d'autres peuples, les éleveurs du Grand Nord, de Sibérie, le Triangle d'Or dont je vous ai parlé, les Touaregs. Et même le dimanche matin, alors les Touaregs, il y aura avant le concert le film « L'âme bleue des Touaregs ». Le dimanche matin, toujours à la Closerie, le film « Tresser la paille » de Jean-Pierre Valentin qui a filmé les Peuls Wodabé avec leur rituel absolument extraordinaire. Et on finira le festival le dimanche avec une visite guidée de notre musée, le château-musée de la Reine de Sicile à Saumur. C'est un peu le Quai Branly du Val-de-Loire. Hein. Et on va axer cette visite guidée, bien sûr, sur les peuples nomades. Et on terminera le festival à 18h30 à notre musée à Saumur avec un film qui s'appelle « Les oubliés du Grand Rift » tourné dans la grande faille du Rift au Kenya et en Tanzanie. Donc vous voyez, il y a toute cette déambulation à la rencontre des différentes formes de vie nomade à travers le monde qui est proposée.
Sur votre site internet et sur les affiches du festival, il y a énormément de photos. À quel point c'est important pour vous qu'on visualise ces peuples? Ou est-ce que c'est juste pour une raison marketing aussi hein, ça peut...
Oh non, c'est très important qu'on les visualise parce que ce sont des peuples qui sont vraiment oubliés de la marche du monde aujourd'hui qui est en train de s'envoyer dans le mur, hein, vous l'avez bien compris, puisque le monde est façonné à l'image occidentale des anciennes puissances colonisatrices et malheureusement tous ces petits peuples-là ont été écrasés du pied par la colonisation, par la déforestation, par les prosélytismes des différentes religions du livre. Donc c'est important de les visualiser parce que ce sont en général des peuples qui, et ça se voit sur les photos, qui ont gardé un lien très très fort à leur environnement, à la nature, à la forêt, aux savanes, au désert, au monde animal aussi, et on tient à mettre l'accent là-dessus.
Enfin, vous organisez donc votre festival dans le Maine-et-Loire et plus précisément dans le Saumurois. Vous y possédez même, comme vous l'avez dit, le château-musée Anaco de la Reine de Sicile. Est-ce que la région du Saumurois, elle est choisie uniquement pour cette raison ou il y a une raison plus profonde et symbolique ?
Alors, c'est tombé complètement par hasard. Parce que moi, je suis un nomade moi-même. Donc, je suis originaire des Hauts-de-Vosges, près de Gérardmer. J'ai vécu longtemps à Paris parce que j'ai réalisé beaucoup de films pour la télévision et c'était plus pratique de vivre à Paris quand on travaille pour la télévision. On a créé à Paris la Péniche Anaco, qui est sur le bassin de la Villette, donc une passerelle entre les cultures du monde. Et je suis tombé un peu par hasard en Saumurois parce que j'y avais acheté une maison de vacances et je m'y suis installé. Et pourquoi un château pour notre musée ? Eh bien, c'est parce qu'on aime créer des ponts. Vous savez, il y a des gens qui créent des murs, hein, je pense plutôt du côté des États-Unis là-bas. Et il y en a d'autres qui préfèrent créer des ponts, c'est notre cas. Et le fait d'installer, de parler de ces peuples sages à l'intérieur de nos vieilles pierres, de monuments qui sont emblématiques de notre propre histoire, bien, c'est d'une certaine façon créer un pont entre notre histoire à nous, qui s'écrit dans nos vieilles pierres et dans nos écrits, et l'histoire de ces peuples qui sont, dont les modes de vie sont en train de disparaître très rapidement, notamment les modes de vie nomades, de chasseurs-cueilleurs ou d'éleveurs nomades.
Eh bien, merci beaucoup Patrick Bernard d'avoir été avec nous. Je rappelle, le festival Anaco du film ethnographique, c'est du 25 au 28 juin. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du festival pour en savoir plus, et je vous souhaite une bonne journée. Le pédalo, ça continue, mais avant ça, on fait une pause musicale. On écoute Lao Sun Theme de Ness, un morceau entre rap et slam, extrait de son album Des pieds et des mains, sorti en mars dernier. A tout de suite dans le pédalo.
Tu nous connais bien, je fais pas le comédien, je la prends comme elle vient. Direct dans la lucarne, la tête dans la lune car j'ai esquivé son regard et son vuca. Tu veux faire bail à plus qu'à, j'ai ce feu dans la gorge, la dose dans le futal. Je prends la feuille et je la découpe, tège la tige et je me défoule. Avant-garde, je le pré-roule depuis la cour et le préau. Focus pour viser le très haut. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va.
On y va, mon frère.
T'es pas sincère quand tu rappes, je vois même pas les images. Hein? On y va, on y va, on y va, on y va, on y va.
On y va.
Mon cercle, je le compte sur mes 10 doigts pour le faire.
J'attends pas un miracle.
On y va, on y va, on y va, on y va. C'est tout droit. C'est tout droit. Hein. M'en fous d'être le rappeur des rappeurs.
M'en fous.
Toute l'année dans l'avion et les vapeurs. Posé qu'avec des vainqueurs qui ont des têtes de hackers. Hey, je me lève, petit soleil. De sucre et une tasse, je le tasse et je me casse. J'aime pas les rendez-vous, j'aime pas les deux contre un et parler de contrat. Martin le bras droit et le contact. J'suis qu'avec des vrais gars qui font pas de faux pas. Entouré par des légendes, c'est mon socle et mes jambes. On évolue mais on n'a pas géchant. Y'a des tigeants avec des têtes de méchants. En vrai j'peux mourir pour tous ces gens. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va.
C'est tout droit.
T'es pas sincère quand tu rappes, je vois même pas les images.
Je vois même pas les images.
On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Mon cercle,
je le compte sur mes 10 doigts.
Pour le faire,
j'attends pas un miracle.
Hey, je viens d'atterrir à Trudeau. Mon cœur traverse les fuseaux. J'enchaîne les flots près du ruisseau. J'empile les briques à la Russell. Caché dans les hauteurs comme de la drogue dans la poussette. Entourage robuste plus cher que de l'or à la pesée.
Plus cher que de l'or à la pesée.
Tu baffes sur nous, ça te refait la gencive à la manchette. Là j'ai un gros de gros au bec et du pain sur la planchette. Et moi ici je compte les taxis jaunes. Mes plaies je les badigeonne. T'es pas là je t'imagine. Nous deux devant le Madison. On se tourne autour comme de loustiques. J'ai hâte qu'on fasse quelques loopings. Ils piquent mes bars comme des moustiques. Prenez je m'en fous je suis sous blue cheese. Je compte les montagnes et les culs de joint. Un tir raté c'est mieux qu'une feinte. Trop de frères pour un plus hein. Dans le GMC pas dans la Mustang.
« c'était Lawson Theme de Ness. Vous êtes toujours sur Radio Campus à l'écoute du Pédalo. Pour cette deuxième partie d'émission, on vous propose d'écouter un reportage réalisé dans le cadre de la série de la Frappe et de la Core Lab, déjà demain, les territoires face au changement climatique. Comment la transmission de la mémoire des catastrophes passées peut nous aider à mieux nous préparer à celles à venir? Face au bouleversement climatique, s'adapter ne relève pas seulement des solutions techniques, mais peut aussi s'alimenter de récits, d'émotions et de liens. C'est ce que nous enseignent dans cet épisode les habitants de Bottmeur dans les Monts d'Arrée. Le village a en effet connu successivement des incendies en 2022, puis une période de sécheresse avec de fortes restrictions en eau, et enfin la tempête Ciaran en 2023 avec une dizaine de jours de coupure d'électricité. Pierre-Louis Lesol de Radio Humorlais est allé à la rencontre du boulanger Thomas Rira et du maire de la commune Éric Prigent.
Onde durable. Déjà demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages à la rencontre de celles et ceux qui transforment nos façons d'habiter, de vivre et de faire territoire.
À Bottmeur, un village d'environ 200 habitants, au cœur des Monts d'Arrée, dans le centre du Finistère, les habitants et habitantes ont vu en quelques années plusieurs catastrophes naturelles. Les incendies, en 2022, puis une période de sécheresse la même année. Un an plus tard, c'est la tempête Ciaran qui a durement touché le village. Je vous emmène à la rencontre de Thomas Riera, le boulanger de la commune, qui devrait ouvrir la boulangerie du Pain Perché le 2 novembre 2023, c'est-à-dire le lendemain du passage de la tempête.
C'était un jeudi, je crois. Et je me rappelle très bien parce que bizarrement, cette nuit-là, j'avais très bien dormi. Comme j'étais tellement dans ma tête de « putain, ça va être mon premier jour d'ouverture et tout », j'ai pas du tout suivi les informations. Et donc à 5h30 du matin, je me réveille en me disant « ça y est, c'est parti, c'est la première journée d'ouverture ». J'avais annoncé ça du coup un peu de partout. Et je sors de chez moi, je prends ma voiture, je me dis, je me rappelle, hein, je me dis « putain, ça souffle quand même pas mal, c'est chelou ici ». Mais quand j'étais nouveau dans les Monts d'Arrée, je me disais « c'était peut-être normal en novembre, je sais pas ». J'avance, j'ai dû faire 300 mètres et puis il y avait un arbre sur la route. Donc je dis « ah, c'est pas grave, j'ai passé par la route de la montagne de l'autre côté ». Et là, j'ai un autre arbre, je dis « putain, c'est bizarre ». J'allume la radio et là, j'entends le préfet du Finistère interdit de se balader, tempête Ciaran en cours, machin. Je dis « ah, putain ». Donc je suis allé me recoucher. Et puis vers 11h15, 11h30, j'ai pu accéder à la route. Donc je suis arrivé ici. Et là, j'ai vu le bourg de Bottmeur avec plein de gens dans les rues, avec des tronçonneuses et des balais. Et j'avais des levains qui étaient prêts pour faire la fournée, mais ça, c'était pas très grave, parce qu'il y avait 3 kilos de levain, c'était pas très grave. Mais j'avais surtout des brioches qui avaient poussé depuis 48 heures, et j'avais des brioches à cuire. Et du coup, j'ai chopé ma voisine, et je lui ai dit « écoute, j'ai des brioches à cuire, je les fais dans ton four à gaz, parce qu'il n'y avait plus d'électricité de nulle part. » Et donc, j'ai cuit mes brioches au four à gaz, et à 16h, heure d'ouverture déjà de la boulangerie normalement, qui était l'heure d'inauguration on va dire, j'ai fait passer le mot à la municipalité, comme quoi comme il y avait tout le monde qui s'entraidait, que ça coupait du bois de partout, qu'à 16h ils pouvaient venir prendre le goûter. Voilà. Donc il y a eu une trentaine de personnes qui sont venues en habit avec les tronçonneuses et en habit de travail et qui ont mangé de la brioche comme ça que j'avais offert comme ça en disant bon bah voilà, au moins ça s'est pas perdu. Et puis voilà, ça c'est la première phase, c'était vraiment le premier jour. Et du coup la municipalité après a mis en place dans la salle des fêtes, là la salle Fanchabgral, avec un générateur, là, je sais plus comment on appelle ça, il y avait de l'électricité, on pouvait recharger le portal et puis surtout tout le monde commençait à vider leur congélateur, ça c'était marrant. Et puis je me suis dit je vais peut-être faire quand même du pain une fois quoi, de temps en temps. Donc 2-3 jours après, je me suis installé à la salle des fêtes, j'ai fait du pain, donc sans pétrin quand même, parce que j'avais pas le matériel. Il y avait un gamin du village, là, Léo, qui est venu avec moi, et on s'est dit, il y en a certains qui ont des fours à gaz dans la commune. On avait listé une quinzaine de personnes sur le village, là, de 230 habitants, qui potentiellement avaient des petits fours. Alors c'était du petit four, ça pouvait être le four étudiant jusqu'au four ménager, quoi, normal, quoi. On s'est baladé pendant 2 heures, et tous les quarts d'heure, on déposait 2 ou 3 kilos ou 4 kilos de pain chez quelqu'un. Ils avaient une liste de recommandations, genre comme là ça sonne, toutes les 35 minutes, t'abaisse de 20 degrés, quoi, ton four pendant 1 heure. Et au bout de la boucle, hop, on est revenu, on a recommencé avec Léo, du coup le gamin qui m'aidait, à récupérer les pains cuits. Et le soir, vers 16h, 17h, à la salle Fanchabgral, lieu où il y avait l'électricité, j'ai vendu, entre guillemets, ma première fournée avec les gens qui sont venus, et ça faisait à la fois, j'allais dire une animation, mais plus que ça, c'était plutôt drôle en fait. Les gens étaient contents, quoi. Ça créait une sorte de cohésion. Bah, en fait, on peut quand même y arriver, quoi. C'est bien. Voilà.
Éric Prigent, le maire de la commune qui entame son troisième mandat, se souvient également très bien de ce 2 novembre 2023 et de la dizaine de jours sans électricité qui ont suivi.
J'ai été réveillé assez tôt après avec le bruit, etc. Et c'est vrai que j'ai été effaré de l'étendue des dégâts parce que c'était vraiment... Il y en avait partout au niveau des arbres, couchés, cassés, etc. C'est vrai que ça a été un moment très compliqué. Alors il y a eu un certain nombre de toitures, les toitures les plus fragiles qui sont parties sur des domaines, on va dire, privés. Au niveau de la commune, pour les biens communaux, on a eu quelques dégâts, mais ça restait à la marge. Hein. On avait le compteur électrique du camping, ça tombe bien, il était fermé. Le radar pédagogique, bon, c'est pas grave, on pouvait pas trop rouler trop vite. De la lucarne de notre boulanger qui était parti aussi. Et après, c'était surtout des arbres qui étaient tombés donc sur les routes et l'ivoirie. Et ensuite, il fallait, avec d'autres qui menaçaient de tomber. Donc on a désengorgé ou réouvert, on va dire, les routes. Et après, c'était aussi la mise en sécurité. Donc on a dû louer une nacelle pour pouvoir justement assurer la mise en sécurité des branches qui menaçaient de tomber. Je me suis rapproché de familles où il y avait les parents ou les grands-parents qui étaient alités, pour qui c'était compliqué, donc ils ont réussi à mettre les choses en place. Après, moi j'avais aussi un administré qui était un petit peu physiquement, pour qui c'était un petit peu compliqué, qui était frigorifié, donc je sais que moi je l'ai invité à la maison à venir manger, comme moi j'avais la chance d'avoir un poêle à bois, donc au moins il a eu chaud, il est resté dormir. Je peux dormir sur le canapé? Je dis mais oui, tu peux dormir sur le canapé, prends ton temps, ça va aller. Donc il y a toutes ces choses-là qui se sont fait naturellement, mais je pense que tous les autres habitants ont fait aussi le petit coup de pouce qu'ils ont pu faire pour leurs voisins, ou quelquefois ils ne parlaient pas forcément toujours avant, et là c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'élan de solidarité. Moi je voyais la salle Fonchabral, les gens ils arrivaient, puis ils commençaient à faire leur repas à midi, alors chacun apportait un petit quelque chose, et hop, une petite bouteille, chacun buvait, il y avait un petit apéritif, un plat, repas, plat, dessert, enfin c'était, t'avais l'impression que c'était la fête, et ils étaient très heureux de partager un moment tous ensemble, plutôt que d'être chacun chez soi tout seul.
Mais alors, après une catastrophe comme celle-ci, quelles leçons en tirer? Éric Prigent.
Plus ça va, plus ça augmente. C'est-à-dire que c'est aussi des événements qui avant étaient atypiques, exceptionnels, plus ça va et ça devient de moins en moins exceptionnel. Donc déjà, c'est se poser les vraies questions et de se dire, il faut peut-être qu'on prenne un peu de hauteur pour faire en sorte que la planète aille mieux et qu'on n'ait pas tous ces événements-là qui se répètent et qui arrivent. On a aussi des fortes précipitations par période, etc., etc. Nous, on est sur la hauteur, c'est moins dramatique, mais on a quand même des maisons qui peuvent être aussi entachées par rapport à des problèmes d'inondation. Donc on sent que ça devient de plus en plus régulier. Il va falloir prévoir avant, plan communal de sauvegarde, on n'en parlait pas, on en a parlé suite à la tempête, après, suite aux incendies, demain ça va être des inondations, des choses comme ça, ou la sécheresse. Enfin, on sent que c'est compliqué, on a connu la sécheresse aussi avec des problématiques d'eau. Donc il faut que chacun prenne sa part et essaye d'être un peu plus résilient. Ça, je pense que c'est déjà une première chose qu'il faudra faire. Et après, on a cette chance, nous, sur une petite commune, de se connaître, d'échanger, et puis de faire en sorte qu'on puisse améliorer les choses, ou au moins faire attention, le bien vivre ensemble, même si on peut avoir des différences ou des divergences, mais il y a des moments où on se retrouve. Je vois, lors de la tempête, on n'avait plus d'assainissement collectif, parce qu'on avait une pompe de relevage. N'ayant pas de groupe électrogène, c'était l'agriculteur du coin qui venait régulièrement aussi brancher son installation électrique, sa génératrice, pour pouvoir aider la commune à remettre en marche ce chose-là. Donc on a tous besoin des uns des autres, donc il faut rester en contact et puis voir comment on peut faire des choses ensemble. Alors c'est vrai qu'au début, chacun était le nez dans le guidon dans sa commune, donc on n'a pas vraiment eu le temps. Alors on a pu échanger quand on était sur nos points réguliers avec le préfet, où tout le monde pouvait parler, c'était un peu les premières téléconférences qu'on pouvait avoir, sous réserve d'abord un peu de téléphonie, parce que nous on avait cette chance, ça passait à peu près, mais il y a d'autres endroits où c'était plus compliqué. Donc on avait ces échanges, on va dire, indirects. Après on a réussi à formaliser un petit peu les choses, mais en fait on avait tous la même problématique. Après, ce qui a été dit, c'est... possibilité de mettre, on va dire, à disposition les tractos de la communauté de communes. Donc c'est aussi des moyens que chaque commune n'avait pas pour permettre, faciliter l'enlèvement des arbres et compagnie. Après, on en est resté, je dois dire, on en est resté un petit peu là. Chacun était dans son truc. Et après, bon, la commune de La Feuillée, ils avaient le toit de l'école qui était parti, donc ils avaient aussi d'autres problématiques à gérer. Et je pense que c'était un petit peu tout ça. On était tous pris avec nos difficultés locales. Mais il faudra en effet qu'on prenne un peu de hauteur. On parle de plan communal de sauvegarde, mais il y aura aussi intercommunal. Là, c'était sur les arbres. Mais quand on parle d'eau, maintenant, on a des interconnexions en eau qui ont été faites. Donc, suite, pas pour la tempête, mais suite à nos épisodes de sécheresse, ben maintenant, on a interconnecté nos réseaux. C'est-à-dire que s'il nous manque de l'eau à Bonnemeur, on peut récupérer celle de La Feuillée. Brasse-Pain va se connecter avec Saint-Rival. Donc, il y a aussi des choses où on voit qu'on est obligé de prendre un peu de hauteur pour pouvoir améliorer le quotidien de chacun.
Vous l'entendez ? Donc, hop.
C'est reparti pour 3 minutes. Mais ouais, c'était à la fois un super plan marketing, mais c'est pas moi qui a rendu, c'est pas de ma faute. Mais ça m'a mis tout de suite bien, quoi. Moi, personnellement, en tant que boulanger, comme je l'ai dit, ça m'a mis tout de suite bien, parce que je me suis dit, putain, Thomas, t'as réussi à pas stresser, ni pour ton entreprise, ni le toit qui goûte, ni le pain et toutes les denrées que t'avais achetées pour 2 semaines que t'as pas pu utiliser, etc. Il y avait un côté un peu magique, quoi, un peu le petit village retranché, mais qui sait tout faire et qui peut survivre en autonomie, entre guillemets, quoi, tu vois. Et ça fait recroire un peu en l'humanité, quoi. Enfin, c'est cool, quoi, dans ce sens-là, quoi. Je vais juste remercier les gens qui m'ont aidé et puis qui ont bien rigolé de l'histoire de la brioche, tous ceux qui ont fait cuire les pains à ma place. Et puis voilà, quoi. Et puis la municipalité qui a su aussi m'accueillir, quoi, comme il se doit, quoi. Voilà.
Eh ben merci. Sortons le pain du four.
Exactement, c'est l'heure de sortir le pain du four.
Vous venez d'écouter Déjà Demain, les territoires face au changement climatique.
Une collection de reportages produites par la Core Lab et la FRAP avec le soutien de la Fondation de France. Cette série s'inscrit dans le cadre du projet Onde Durable.
Un projet soutenu par l'État dans le cadre du dispositif Soutenir des alternatives vertes 2 de France 2030, opéré par la Banque des Territoires, groupe Caisse des Dépôts.
Merci à Pierre-Louis Lesseul de Radio U Morlaix. Le pédalo s'est bientôt terminé, mais avant, on accueille Anaïs qui est en stage de seconde avec nous cette semaine. Salut Anaïs.
Salut.
Cet été, une nouvelle loi va être votée, celle sur l'interdiction des téléphones portables au lycée pour la rentrée de septembre. C'est ce qu'a annoncé Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, le 17 juin dernier sur France Info. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Alors cette loi n'est pas encore bien claire, étant donné que le texte officiel n'est pas encore sorti, mais le principe serait l'interdiction sur le temps scolaire avec quelques dérogations possibles. On peut citer par exemple des besoins pédagogiques, des raisons médicales ou des situations particulières. Le ministre prévoit aussi un accompagnement pour aider les élèves à appliquer cette nouvelle règle. Édouard Geffray indique vouloir transmettre des informations aux établissements plus précises très prochainement afin de pouvoir assurer la rentrée. Il considère que cette loi est majeure pour les élèves.
Et donc, quels sont les objectifs de cette future loi ?
Selon le gouvernement, cette loi a plusieurs objectifs. Améliorer la concentration, réduire le temps passé sur les écrans, favoriser les échanges entre lycéens, lutter contre le cyberharcèlement et protéger la santé mentale des jeunes.
Avant cette nouvelle loi, quelles étaient les règles concernant les téléphones dans les établissements scolaires ?
Les téléphones portables sont arrivés chez les jeunes dans les années 2010. Suite à ça, le gouvernement a mis en place une loi interdisant leur usage dans les écoles maternelles, élémentaires et les collèges. En 2018, Jean-Michel Blanquer, un ancien ministre de l'Éducation nationale, annonce une nouvelle loi avec des règles identiques de celles de 2010. En 2025, Elisabeth Borne, ancienne première ministre, annonce l'interdiction générale des téléphones portables au collège. A noter que ces interdictions sont semblables à celles déjà mises en place depuis 2010.
Cette loi est donc destinée aux jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent ?
Selon l'étude du journal des lycéens, 94% des concernés seraient contre cette mesure. Ils affirment que l'utilisation de leur téléphone est destinée à l'usage de pronotes, à leur révision et aux réseaux sociaux. Beaucoup trouvent ça absurde, sans but logique et réel. D'autres disent qu'il ne faut pas interdire mais plutôt mettre en place des restrictions comme l'interdiction plus poussée des téléphones portables en classe. Enfin, les 6% d'accord avec le gouvernement pensent qu'il va avoir de meilleures concentrations, donc de meilleurs résultats, moins d'isolement et de cyberharcèlement.
Toi, Anaïs, tu es concernée par cette loi, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, je suis plutôt contre cette loi, car nous avons grandi dans une société avec les écrans et les réseaux sociaux. Il faut donc s'y habituer. Il faudrait plutôt un accompagnement dès notre jeune âge, afin de nous expliquer les éventuels risques des réseaux sociaux et des écrans. Je trouve que ça montre que le gouvernement ne nous fait pas confiance, il faut qu'on apprenne à être autonome. Et pour finir, je trouve ça dommage de ne pas demander l'avis aux concernés et de ne pas pousser le sujet plus loin.
Merci beaucoup Anaïs pour cet éclairage, on te souhaite une bonne fin de stage. Le Pédalo termine sa traversée sur les ondes de Campus, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Maëlle, à la technique, la programmation continue sur le 103 FM, alors restez bien avec nous et n'oubliez pas, les bonnes ondes c'est pour tout le monde.
À retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.